Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter, en toute liberté, avec du son et du sens.
En direct du studio 500, une émission réalisée et surveillée par Jérôme Chélius, assistée de Lucie Valérie au parloir et Grégory Vallon à la guérite technique aujourd'hui.
Au sommaire cette semaine, la prison au bord de l'explosion. À Châteauroux, les surveillants sont en colère et les familles de détenus aussi. Et en Seine-Saint-Denis, une journée avec les conseillers d'insertion, les SPIP. Remplir les prisons ou éviter la récidive ?
La prison, c'est pas une solution. C'est une solution pour les grands crimes. Mais c'est pas une solution pour les petits délits.
La prison, c'est l'école... on va dire l'école des voyous.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
Comme un bruit qui court, qu'on ne perd pas toujours, même contre le MEDEF. Jeudi dernier, Loïc Canitro, cofondateur de Nuit Debout et militant anti-loi travail, qui était poursuivi par l'organisation patronale pour violence en réunion, a été relaxé. Victoire donc pour le militant syndical et sacré camouflé aussi pour le parquet.
Car au-delà des faits, c'est le comportement du ministère public qui a été dénoncé par l'avocate Irène Terrel.
Un parquet politique tout acquis aux accusations du MEDEF, qui a même refusé d'enregistrer la plainte de Loïc Canitro. De là à dire que pour la justice, la parole d'un représentant du MEDEF pèse plus que celle d'un simple citoyen, il n'y a qu'un pas. C'est ni plus ni moins ce que dénonçait déjà en 1977 le philosophe Michel Foucault.
La justice, elle n'est pas faite pour autre chose que d'enregistrer au niveau officiel, au niveau légal, au niveau rituel aussi, ces contrôles qui sont essentiellement les contrôles de normalisation et qui sont assurés par la police. La justice est au service de la police, historiquement et de fait institutionnellement.
Une justice aux ordres de la police et du patronat. Une justice qui, selon un récent rapport de l'Observatoire des inégalités, n'est pas juste et qui juge plus sévèrement les plus faibles.
Par exemple, près de 60% des peines de prison sont prononcées contre des chômeurs.
Alors, à l'heure où les prisons sont au bord de l'explosion, comme un bruit est allé à la rencontre du monde carcéral. Maton, famille de détenus et prévenus. Devant les barricades de la prison de Châteauroux, Antoine, tu es allé rencontrer les syndicats.
Oui, et de tous les syndicats en présence. Pendant 12 jours, les surveillants pénitentiaires ont organisé des blocages devant les prisons. Rien ne rentre, rien ne sort. Et en même temps, Lydia, une mère de détenus, a fondé un syndicat pour défendre le droit des prisonniers dans les prisons surpeuplées. Mais la convergence des luttes n'a pas eu lieu.
Et si la prison n'était pas la solution, mais plutôt le problème ? Yves, toi tu es là à la rencontre de ceux qui défendent la prison sans les barreaux.
Oui, c'est les SPIP, les conseillers d'insertion et de probation. Parce que surpeuplés par près de 770 000 détenus, qui récidivent à 61%, nos prisons se remplissent comme jamais, avec des taux d'incarcération historiquement hauts. Mais si les décisions de justice sont prononcées pour punir crimes et délits, elles sont aussi censées réparer, préparer la réinsertion et éviter la récidive. Et les 3 000 conseillers d'insertion qui ont cette mission font moins de bruit que les 26 000 surveillants de la même administration pénitentiaire, même s'ils sont eux aussi dans un bras de fer avec leurs autorités. Alors nous sommes allés passer 2 jours dans les locaux du SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et probation de Seine-Saint-Denis, pour avoir une idée du compliqué SAV des 250 000 personnes sous main de justice. Ici, travaux d'intérêt général, sursis, bracelets électroniques, peines alternatives sont quelques-uns des outils utilisés pour ne pas juste enfermer.
Jusqu'à 17h sur France Inter, comme un bruit qui court, la prison au bord de l'explosion, c'est parti.
On commence par la photo.
Ouais. Okay.
Voilà. Je veux aussi prendre une prise d'empreinte de votre index gauche.
C'est pas toujours simple, surtout quand il vient d'être condamné. Ça va très vite et puis souvent lorsque la condamnation est posée, c'est vrai qu'on n'est pas dans le temps de l'explication, on est dans le temps du choc et le temps de la gestion des émotions. Et nous, on est là pour redonner un peu du sens.
C'est efficace pour toutes les personnes qui prennent conscience de la chance qu'ils ont d'avoir cette mesure.
C'est-à-dire de ne pas être enfermé.
Tout à fait.
Bien sûr que c'est l'école du crime. Tu rentres avec un CAP escroquerie, tu ressors avec un BTS trafic de stup.
Comment ?
Antoine Chao.
Hashtag comme un bruit.
Saint-Denis, 8h30 du matin.
Bonjour.
Bonjour, vous allez bien ?
Ça va et vous?
Il y a souci? Peut-être que je peux commencer par un petit tour des lieux.
C'est une très
comme
bonne
ça,
idée.
Vous aurez...
Bonjour.
Hop, alors.
Je suis.
Donc, nous sommes sur 3 étages. Ah. Bonjour, monsieur Tessier. Donc, le service ouvre à 9h. Nous avons 20 box d'entretien, 2 salles d'action collective qui se trouvent au rez-de-chaussée. Donc là, l'accueil.
Ouais.
Bonjour. Voilà, donc dans 5 minutes, le service va ouvrir. Donc, il faut savoir quand même que ce service reçoit à peu près 100 à 120 personnes par jour, sans compter les appels téléphoniques. Et il suit, dans le cadre des mesures de probation, à peu près 4500 personnes.
4500
4500 personnes qui sont tous domiciliées sur le département et qui sont suivies soit dans le cadre de peines alternatives à l'incarcération, soit dans le cadre d'aménagement de peine. Bracelet électronique, semi-liberté, placement extérieur, libération conditionnelle.
C'est ça. Alors, il y a ceux qui rentrent en prison et il y a ceux qui sortent. Mais le point commun, c'est qu'ici, c'est la prison sans barreaux.
Tout à fait. C'est la prison, c'est une mesure de probation. C'est une peine en soi. Il y a la contrainte pénale, le sursis mis à l'épreuve, le travail d'intérêt général, la différentes catégories de mesures qui sont des alternatives à l'enfermement. C'est-à-dire que nous avons des personnes qui ont été condamnées à la barre à des peines d'incarcération qui n'ont pas été mises à exécution de suite et pour lesquelles le juge d'application des peines nous demande de faire une évaluation pour proposer un aménagement de peine avant l'entrée en détention par les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation.
C'est là où se joue... Comment on va sortir de prison aussi pour certains?
Tout à fait. La préparation à la sortie des personnes qui sortent de détention et qui vont ensuite pouvoir être accompagnées par des conseillers pénitentiaires avec effectivement des relais auprès des partenaires de formation, de travail, d'accès aux droits pour éviter effectivement de retomber dans les méandres de leur déviance.
Voilà. Et c'est-à-dire que les méandres de leur déviance, c'est-à-dire la récidive.
La récidive, tout à fait.
Puisqu'il y a des chiffres qui sont sortis sur le pourcentage de récidive avec un enfermement sec. Mm-hmm. Par rapport à celui avec des mesures d'accompagnement ou des mesures de suivi, c'est-à-dire ce que fait le SPIP, et c'est du simple double le taux de récidive, si je ne m'abuse.
Effectivement, il y a des évaluations qui ont été menées sur le taux de récidive des personnes qui sortent en sortie sèche, mais effectivement, il est bien moindre lorsque la sortie est accompagnée.
Cette peine est-elle efficace? Oui, selon les statistiques. 34% de récidive, la prison c'est 61%.
Ça facilite vraiment le retour à la vie normale des détenus, parce que c'est le but.
Les détenus ne passent plus leur temps à ruminer leur colère d'avoir été enfermés 18 heures sur 24 en cellule, ou ruminer leur colère d'avoir été privés de la troisième douche de la semaine, parce que c'est ça aussi, la prison en France.
C'est vrai, là.
Pour que l'enfermement ne soit pas le seul horizon, pour que l'incarcération ne soit pas le terreau des extrémismes, des vies échouées, des destins brisés.
Donc du coup, la peine devient plus constructive, tant pour le détenu que pour la société.
Ça va?
Bien, je vous remercie, oui.
Bonjour mesdames.
Bonjour.
Alors Dolores, Serré, et je suis CEPIP. Et Ingrid, je suis conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation également.
Et vous allez faire quoi aujourd'hui?
Alors là, on est de permanence, donc c'est-à-dire qu'on reçoit tous les gens qui se présentent au service. Voilà. Donc c'est en sortie d'audience, des gens convoqués, des gens qui viennent pour le bracelet, toutes les demandes, on étudie. Donc il y a du monde, normalement.
Ouais. Là, c'est avant le calme avant la tempête, c'est ça?
Voilà.
Tout à fait. Si j'arrive, ouais. On va vous donner une petite carte, comme ça vous avez.
Le SPIP de la SNCF, bonjour.
Bonjour.
Tout à fait.
Ok, vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît?
Eh bien, allez-moi, vous pouvez faire.
Oui, juste derrière vous quand vous rentrez, ouais, c'est là. Installez-vous. Ah non, rendez-vous, ouais, pas tarder.
Notre système carcéral est tiraillé entre deux tendances contradictoires. Remplir les prisons ou essayer de les vider. Alors ici, dans les 3 étages du service d'insertion de Saint-Denis, on est loin des discours de fermeté ou de laxisme des uns ou des autres. On est dans le dur du réel. Chaque dossier est une histoire humaine et compliquée. Surtout quand la mission, en plus de punir, est d'essayer de réparer les hommes et notre société. On a même un mot pour ça, la désistance, ou le délicat processus de sortie de la délinquance, et c'est pas toujours facile.
Pardon, allez-y.
Bonjour, monsieur.
Sujet.
Bonjour, monsieur.
Bonjour. Vous.
Je peux vous demander, qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver là ce matin? Qu'est-ce qui vous a amené ici?
J'ai effectué un peu de bêtises et puis voilà. Pour éviter la casse-prison, on n'a pas le choix.
Alors,
Moi, je suis Patrice, agent PSE surveillant. Pour la pose du bracelet électronique, voilà la fiche de renseignement. Alors, vous mesurez combien, s'il vous
plaît ? 1m68.
Les yeux de quelle couleur ?
Vert.
Les cheveux châtains. Alors, vous avez terminé, vous avez été scolarisé jusqu'en quelle classe ?
Troisième.
Vous avez un diplôme ?
Non.
Faites quoi comme métier ?
Je fais plus rien du tout. Parce que j'ai attrapé une maladie chronique.
Vous êtes célibataire, marié, concubinage ?
Célibataire.
Vous avez des enfants ?
Oui.
Un. Alors, vous habitez...
Chez mes parents.
Donc là, c'est le document qui officialise votre école. Alors, donc, ici, nous avons... Boîtier d'unité fixe qui sera branché au domicile. Et ici, le petit dispositif gris qui sera à votre cheville avec une sangle noire. Donc, vous voyez, il est en bon état. On fait signer ce document pour vous faire prendre connaissance du prix du matériel en cas de détérioration. Si vous cassez ou fracturez ou le perdez, il vous est facturé 108 euros.
108 euros.
Voilà. Il y a des tests qui ont été réalisés et il part du principe que s'il est détérioré, c'est qu'il y a un acte de volontariat et qui peut être considéré comme tentative d'évasion. Voilà. Ça reste une mesure alternative à la prison.
Et s'il se détache, on peut appeler le SPIP.
Alors, nous avons des alarmes différentes qui nous permettent d'identifier le problème. À partir du moment où vous êtes placé sous bracelet électronique, c'est à vous de faire attention.
Il y a un GPS dedans ou...
Non, sous le dispositif présent, il n'y a pas de GPS.
Okay, parce que vu que j'ai le week-end libre, moi, je vais y aller à l'étranger.
Alors, il faut savoir que en placement sous surveillance électronique, vous n'avez pas le droit de quitter le territoire national. Tant que vous êtes sous... Comme je dis encore une fois, c'est une alternative à la prison. Donc, en fait, vous êtes écroué. Ouais. Qui dit écrou, dit prison, dit semi-liberté, placement électronique. Ouais. Donc, vous ne pouvez pas quitter le territoire national.
Si j'ai 5 minutes de retard, c'est pris en compte.
Il faut savoir qu'à la minute près, il va générer une absence. Voilà, un retard. Donc, par exemple, dans votre cas, mais à minute 1, si vous n'êtes pas réintégré votre domicile, vous serez en retard.
Okay. Et pour les remises de peine, tout ça, là, c'est avec la SPIP ?
Tout à fait. Voilà. Juste la fiche de score, je vais tout envoyer au greffe, tout ça, de celui d'Apigami.
C'est chaud, non, quand même.
Bon, c'est la routine. C'est mieux que la prison.
Ça, vous êtes déjà passé par ces genres de galères ?
Commissariat, ouais, prison, mais pas ça, c'est la première fois. Après, quand on fait des bêtises, il faut assumer.
Parce que vous en connaissez des gars qui sont allés et qui vous ont raconté ?
Bah, la moitié de ma famille y est allée.
C'est vrai ? Donc ouais, ça vous fait pas peur, la prison ?
C'est pas une question de peur. Vous avez à boire, vous avez à manger. Si vous avez de l'argent, vous avez tout ce qu'il faut.
Plus les barreaux.
Oh, ça sent l'option.
Voilà. Alors, venez avec moi, je vais vous mettre vos bracelets.
Je ne peux pas le mettre au poignet, là.
Malheureusement, non.
Pourquoi plutôt au poignet qu'à la cheville ?
Ça ferait une belle montre.
Alors, je précise par rapport au bracelet quand même. Il n'est pas adapté pour les bains prolongés, en fait, le spa, le jacuzzi, la piscine.
Ah, ça marche pas ?
Voilà.
Il faut pas y aller dans les trucs où il y a de la voix.
Faut pas laisser
le sauna, tout ça.
Voilà, il y a de l'électronique dedans, donc ce sera embêtant de vous facturer 108 euros.
C'est pas grave. Bon. À moins, on prendra soin de nous.
Donc, mais par contre, vous pouvez prendre la douche, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Donc là, j'ai pris la taille de votre cheville. Je vous mets le bracelet adapté. Voilà. Voilà. C'est bon la taille, au niveau de la taille, ça ?
Vous levez les bras, là, avec un soupir.
Franchement, hein, j'aurais préféré la prison. Je serais resté 6 mois sans bracelet, remise de peine. J'aurais fait 3 mois avec les aménagements, les trucs. Je serais sorti en fin de peine.
Dites là, vous allez porter ce bracelet à la cheville. Là, je vois que vous vous grattez parce que vous vous habituez.
Ben là, j'ai 19 mois en tout. Après, tout dépendra s'il y a de la bonne conduite. Mais bon, ça va. Là, ils étaient cléments, quoi.
C'est bon, vous êtes...
Oui, pour moi, c'est bon. Je vous disais tout à l'heure, monsieur.
Ok, à tout à l'heure.
Pardon.
C'est ça.
Attends, je t'en donne...
Bon, je suis dehors. Vous voilà dehors, mais en même temps, c'est votre premier jour de prison.
Ouais, prison libre.
Ça vous impressionne pas trop, j'ai l'impression.
Moi, bon, pas du tout.
Vous, je peux vous demander pour quel genre d'affaires vous êtes condamné?
Comment ça? C'est des escroqueries immobilières. On se fait passer pour des faux diamantaires. C'est les rip deals, de la fausse monnaie contre de la vraie monnaie.
Et vous me disiez, il y a pas mal de gens dans la famille qui sont passés par la prison?
Ouais, du plus petit au plus grand. Quoi. C'est pas choquant, quoi. Ouais, c'est comme si c'était une habitude. Garde à vue, casse prison, ça arrive. Hein.
Première garde à vue, vous aviez quel âge?
9 ans.
C'était pourquoi?
Tentative de vol.
Il y en a eu combien depuis?
Des gardes à vue? Ouais. 10. Et puis là, ça s'est accumulé. Et puis, pour éviter la prison, ils m'ont mis le bracelet électronique.
Et vous allez faire quoi maintenant que vous avez le bracelet à la cheville? La jouer, ça fait une petite bosse dans le jean moulant quand même.
Ouais, ça va, ça se voit pas.
Ouais.
Là, je vais faire quoi? Je vais continuer ma vie. Hein. C'est pas pour ça que je vais arrêter.
Faire des bêtises?
Un peu normal. Il n'y a pas de GPS dedans. On peut y aller à l'étranger. Hein. Si vous voulez, je suis plus à l'étranger qu'en France.
Pour les affaires?
Voilà. Parce que j'évite la France. C'est la crise en France.
Mais c'est ça, ce que vous dites, c'est que la prison, c'est pas dissuasif en fait. L'enfermement.
Ah, si vous voulez, quand ils vous mettent en prison, ça vous met plus la rage. Et une fois que vous êtes passé par là, vous allez vous y habituer. Vous allez royaler, faire la même chose. En plus, quand c'est des petites peines, c'est rien. Moi, le métier que je fais, c'est 6 mois de prison.
Pour les arnaques, l'escroquerie.
Voilà. C'est 6 mois de prison et vous êtes dehors. Mais la plupart du temps, c'est un contrôle judiciaire et vous avez des sursis.
Et donc pour vous, 6 mois de prison, c'est le prix à payer pour continuer à faire le boulot?
On va pas dire ça comme ça. C'est les risques du métier, on fait des emprunts à longue durée, à la fin, quand on se fait attraper, bon, on rentre. Si vous voulez.
Vous serez jamais du côté de la loi, en fait. Comme il veut que vous soyez inséré avec un programme, avec un emploi et...
C'est pas de leur faute. Hein. Après, on choisit notre vie.
On choisit vraiment?
Ouais. Ah oui, on a le choix. Si on veut travailler dans une usine, on a le droit de travailler dans une usine.
Sauf qu'il n'y a plus d'usine.
Mais bon, après, c'est l'argent facile, quoi. Avec un bon avocat, on sort toujours. Et puis voilà.
Merci, allez, bon courage.
On me parle de taf et pour des thunes dont je profiterai même pas. Ils obliquent ma vie, j'en ai qu'une, je vis comme dans Koh-Lanta. Cette ville rêve d'avoir un gosse, une meuf, une Chevrolet trop charbonnée. Une ville, un vélo de ville est trop sous contrat. Se lever à 6 du mat, ensuite déposer le fiston. Qui lui, quand il grandira, profitera de tous mes pistons. Routine hebdomadaire, donc obligé de prendre des congés. Une vie tellement robotisée que j'ai déjà dans quoi dépenser. C'est crédit immobilier, Minerval, l'université, collier de perles, des Champs-Élysées pour nos 10 ans de mariage sous deux nanana. J'veux pas de ça, perdre des sous pour des pères de sang. Être père en mari, boss d'une PME, toucher 6 200. Pour certains, c'est le paradis. Moi, j'veux pas refaire des vies. J'veux vivre un truc inédit, genre 50 Jay-Z, P. Diddy. J'suis fatigué de leur vision de la réalité. 25 ans dans l'humanité, ouais, sans aucune humanité. Et j'pense que si la vie ne me donne pas tout ce que j'lui demande, j'passerai par la violence. Qu'importe les crimes, en victime innocente. Dans la vie, chacun sa chance. J'irai voir caméra de surveillance. Moi qui ne fais la surveillance. Tueur.
Ah bah, bruit qui court.
La prison, c'est pas une solution. C'est une solution pour les grands crimes, les meurtres, les pédophiles. Mais c'est pas une solution pour les petits délits.
Bonjour.
Bonjour.
Votre prénom, juste?
Assia.
Assia. Là, vous vous retrouvez convoqué pour un entretien, c'est ça?
Oui. J'ai pris 3 mois ferme pour conduite sans permis. Normalement, on ne prend pas de ferme en général quand c'est la première fois pour ça, mais comme moi j'ai déjà un casier judiciaire, ils m'ont taclé. Donc voilà.
C'était pour quel genre d'affaires les précédentes condamnations?
Escroquerie et association de malfaiteurs.
Oh, quand même.
J'ai connu l'enfermement une première fois en 2006, 15 mois, et une deuxième fois en 2012, pratiquement 2 ans. Ouais.
Et vous n'êtes pas vieille.
J'ai 31 ans.
Mais vous avez une expérience et un pédigré de l'administration pénitentiaire vachement poussé.
Ouais. Oui, tout ce qui est depuis l'âge de exactement 17 ans, j'ai affaire aux juges, aux SPIP, aux procureurs.
Et la première fois, c'est comment ?
La première fois, ouais, dans le moral, ça m'a mis un coup. On n'a pas d'intimité en prison. On se fait fouiller 3-4 fois par jour. On sort 2 heures par jour, 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. Et bien sûr, c'est l'école du crime. Tu rentres avec un CAP escroquerie, tu ressors avec un BTS trafic de stupes. Parce que tu vois de tout, en fait. Moi, j'étais dans la cellule avec une fille qui était là pour meurtre, pour assassinat même. Moi, ma dernière peine, en 2 ans, moi, j'étais même pas encore sortie, que j'ai vu 3-4 fois des filles sortir et re-rentrer. Il y a d'autres solutions, mais il n'y aura pas de troisième fois. Je me le souhaite aussi.
Avec un enjeu majeur pour l'administration pénitentiaire, l'enjeu de la sécurité. Aucun détenu dangereux ne doit intégrer ce genre de dispositif. À commencer par les détenus radicalisés, ceux impliqués dans des affaires de terrorisme, ils sont de fait exclus de ce genre de programme, automatiquement.
Je vous laisse travailler.
On est enregistré du coup,
ouais,
non ?
Exactement.
Bon, on va essayer d'être le plus naturel possible. Alors, comment ça va ?
Ça va.
Ouais ?
Ouais, ça va.
C'est bon, c'est redescendu. On s'était bien préparé tout ça.
Ouais.
Vous étiez à l'heure.
J'étais à l'heure, mais après, ouais, le rapport que vous avez fait, franchement, il m'a sauvée. Hein. Le procureur, en fait, il s'est basé sur votre rapport et donc, du coup, il a accepté le sursitige.
Mais le rapport, c'est le résultat de tous nos entretiens et c'était complètement objectif. Hein. C'est vraiment...
C'est vous qui m'avez encouragé.
Oui. Ça, vous accompagnez, vous encouragez, voilà, oui, bien
c'est
sûr.
C'est ce que je lui ai dit aussi à la juge. J'ai eu affaire, je pense, à une dizaine de SPIP dans ma vie. Et je lui ai dit, c'est la première fois.
Oui, mais après, moi, je suis peut-être arrivée à un moment dans votre vie où là, vous avez la
ouais,
trentaine,
voilà.
Tout
après,
ça.
Après, je lui ai expliqué à la juge.
Ouais.
Je lui ai dit, parce qu'elle a vu mon casier judiciaire, je lui ai dit, madame, là, je suis là pour conduite sans permis. Mm-hmm. Voilà, je lui ai dit, là, je ne suis pas là devant vous pour stup ou pour vol. Et que le sursitige, voilà, ça me remettrait dans le monde du travail. Et voilà, oui. J'ai parlé aussi de vouloir effacer l'effacement de mon casier judiciaire.
Ouais, c'est ce qu'on...
Ouais. Voilà, pour que je puisse travailler avec les enfants. Parce qu'en fait, c'est mon but, en fait.
Ça, on va le faire avec étapes. Il y a un sursis et un accompagnement sur 18 mois.
Après, je lui ai dit, écoutez, moi, je suis sortie de prison depuis 2014. Je suis sortie de prison, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé. Je me suis inscrite au Pôle emploi, je me suis inscrite... Tout, on doit s'inscrire. On m'a dit, va voir l'assistante sociale. Je suis partie voir l'assistante sociale. À part me donner des tickets de métro et me faire mon Navigo et me donner un ticket de chez Coluche, franchement, moi, c'est pas ça que je veux. Donc, jamais une fois, j'ai eu une proposition de travail, même pour faire femme de ménage. Jamais une fois. Je suis partie frapper à toutes les portes. Donc, en fait, la juge, je lui ai expliqué un peu tout ça. Je lui ai dit, vous savez, quand vous avez 30 ans, même si on sort de prison, on n'a pas d'enfant. Célibataire, mais il n'y a rien, je lui dis, il n'y a rien pour nous. Alors que faut pas oublier que je suis quand même au RSA. Et à part le RSA, j'ai rien d'autre. Enfin, voilà quoi. En fait, quand on sort de prison, soit on est entouré et c'est bon, soit si on n'est pas entouré, en fait, voilà quoi. Enfin, moi, si j'avais pas été entourée. Après, la juge, comme je lui ai dit, vous savez, madame, franchement, ce jour-là, je me suis fait arrêter conduite sans permis, c'était quand même la première fois. Je lui ai dit, mais c'était quand même dur de prendre du ferme. En fait.
Elle vous a marqué cette histoire.
Bah oui. Autant bon, les 10 mois de sursis et les 2 ans de mise à l'épreuve, je les méritais.
Ouais.
J'avais même avoué. Ok.
Autant... Et du coup, la conversion là, 2-3 mois ferme en sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, d'être suivi pendant 18 mois par le SPIP, vous êtes soulagée.
C'est moi qui l'a demandé. Êtes...
Ah oui, bien
ouais,
sûr.
Bah oui, bien sûr que je suis soulagée.
Ouais. Ouais. Tant mieux si ça se passe bien, parce que de toute façon, on va repartir sur 18 mois. Donc autant que ça se passe bien. Donc on va prendre,
on va
regarder, on va essayer de laisser un peu le passé de côté et de se concentrer sur le présent et l'avenir là, sur ces 18 mois d'accompagnement. On va essayer de faire des choses, les projets là. Donc si on résume un peu la priorité là.
La priorité, c'est le travail.
Le travail.
Ça, c'est
d'accord.
J'en peux plus.
Le travail, la formation.
Ouais.
Donc là, le projet, l'effacement de casier.
Ok. Je vais le faire jeudi, là. Je peux pas. Je peux te raconter toute ma vie encore.
Je peux pas. Non, mais il n'y a pas de raison.
Ouais.
Mais je vous ai encore rendu.
Bonjour madame.
Faut me laisser avec madame Cassol, madame. Hein. S'il vous plaît. Faut pas me changer de pipe.
Ça s'est bien passé ?
Oui, ça s'est bien passé.
Ouais.
Ma mise à l'épreuve pour une autre affaire se termine, mon sursis va commencer et en même temps elle m'oriente pour tout. Le SPIP normalement c'est conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation. C'est ça un SPIP normalement. Il y en a qui sont là pour te suivre quand t'as le bracelet ou quand t'es en aménagement de peine comme moi. Donc tous les mois ils vont vérifier si t'as une fiche de paye, si tu fais ça ou quoi. Il y en a qui prennent le temps de te parler. Pas beaucoup de SPIP me diraient « oui, je vais appeler les préfectures pour savoir où tu peux récupérer ton S48 pour repasser ton permis ». Il n'y en a pas beaucoup des SPIP qui font ça. Elle, elle le fait.
Donc c'est ça qui fait peut-être que vous allez pouvoir cette fois-ci passer entre les gouttes et commencer quelque chose de nouveau ?
Bah ouais. Non mais oui, c'est sûr, rentrer en prison, j'espère et je le souhaite ne plus y rentrer. C'est pas une solution la prison. En fait, quand on rentre en prison, on ressort frustré et après on devient anti-société. La société qui m'a fait perdre du temps.
Bon bah bonne chance pour la suite.
C'est gentil.
Le SPIP de la Seine-Saint-Denis, bonjour.
Bonjour. Installez-vous. Ah non, rendez-vous, elle devrait pas tarder.
Et bah,
moi, je suis derrière vous quand vous rentrez.
Je vais juste. De toute façon, je vous envoie un message.
Ouais, la veille.
Ouais, la veille ou le matin, comme ça on se rappelle les dates.
La veille, c'est bien.
La veille, c'est bien. Ok, bon, on reste là-dessus alors.
D'accord.
C'est bien. Au revoir.
Je te prends la 5.
Oui, d'accord.
Ah,
on peut y aller.
Allez-y.
Merci. Kamel, c'est bon. Vous pouvez y aller.
Bonjour.
Alors, on remplit ça comme d'habitude et motivation de la demande, le travail, reprise de l'ouverture du magasin.
Pendant qu'il y a deux secondes, je peux vous demander juste de quoi il s'agit ?
Alors en fait, monsieur est en placement sous surveillance électronique, le bracelet électronique, et il a un emploi de responsable dans un magasin. Et c'est que monsieur puisse continuer à travailler dans les meilleures conditions possibles. Donc là, à partir du moment où on a tous les documents, où c'est justifié, que ça ne pose pas plus de difficultés que ça, on le fait sans difficulté.
Et donc ça fait longtemps que vous êtes obligé de jongler entre les deux ?
Bah,
le bracelet et les horaires, où vous êtes obligatoirement chez vous, et la reprise d'une vie professionnelle. Vous devez rester chez vous de quelle heure à quelle heure avec le bracelet électronique ?
Alors, dans un premier temps, depuis septembre, c'était à 18h30 à la maison. Je ne pouvais plus sortir. Et là, depuis que je suis passé du soir, c'est 21h.
Jusqu'au lendemain matin.
Jusqu'au lendemain. C'est une sorte de liberté avec un bracelet, mais c'est toujours mieux d'être avec le bracelet et avoir des contraintes horaires que d'être enfermé.
Vous êtes passé par l'enfermement avant ou pas ?
Ouais, ouais, ouais. C'était pas dans un cadre facile, c'était la première fois. Mais
longtemps ?
Presque 3 ans.
Ah ouais ?
Presque, on va dire, ouais. Faut respecter pareil la conditionnelle jusqu'en 2019 et puis j'aurais payé ma peine, j'aurais effectué ma peine pour tourner la page et puis faut avancer. J'ai mon CDI, ça se passe bien, on peut avancer, faire de bonnes choses et puis tourner la page et voilà, c'est ça le but, fonder une famille et puis avancer. En sachant que on va dire c'était vraiment ma première erreur et ça m'a fait faire au moins plus de 3 ans de prison. Donc faut pas retomber dans les mêmes pièges quand on était plus jeune et puis faut aller de l'avant.
Est-ce qu'on peut dire c'était quel genre d'affaire qui vous a mis derrière les barreaux ?
On va dire stupéfiant, séquestration. Je me suis retrouvé embarqué dans un truc vraiment hard. Et pourtant, je n'avais pas du tout le profil, c'est-à-dire je travaillais et tout. J'ai suivi des amis et puis voilà, ça m'a ramené dans cette histoire-là. Voilà. Puis en espérant que ça se finisse bien jusqu'à la fin du terme du bracelet. Et puis voilà.
C'est dans longtemps encore
Mais normalement, bientôt,
pour
on touche du bois.
Pour l'instant, on est au 30 mai.
Voilà, c'est ça.
Avec un passage en libération conditionnelle après, jusqu'au 17 mai 2019.
Exact.
Donc on attend de voir venir. Voilà, alors on avait quoi d'autre à voir au niveau des parties civiles ? On en est où ?
Bah, je vous avais envoyé
décembre,
janvier, ouais.
J'avais payé les deux d'un coup.
Ouais, normalement, pour décembre et janvier, on est bon.
Ça, c'est les dommages et intérêts ?
Voilà, des parties civiles à payer, ouais.
Donc en fait, monsieur fait un versement de
50-60
euros par mois.
Est-ce qu'au boulot, par exemple, les gens savent que vous avez un bracelet ?
Quelques collègues, oui. Et après, le directeur lui-même, oui. Oui, parce que c'est lui qui m'a gardé mon travail. Il m'a pas jugé, il m'a dit que je suis un bosseur, il m'a toujours connu comme ça, donc il me juge pas, il me laisse ma chance. Tant mieux.
Alors que sinon, vous auriez fait toute votre peine derrière les barreaux, c'est ça, s'il n'y avait pas cette option-là?
C'est ça, enfin une grande partie en tout cas, une plus grande partie que ça, c'est ça. Exactement, mais j'ai eu la chance d'avoir un travail et puis pouvoir m'en sortir. Après, mon comportement en détention aussi a joué. Je travaille en détention, pas de rapport et puis voilà.
Bah, bon courage pour la suite.
Merci, merci à vous.
Très bien. C'est tout bon ?
C'est tout bon.
Bon, très bien. Okay. C'est tout bon. Ben voilà, monsieur.
Très bien.
Je vous raccompagne.
Ça marche.
Et donc, j'attends du coup votre caisse. D'accord ? Par mail.
Ouais, je vous l'envoie par mail. Ça marche.
Comme d'habitude.
Ok, merci beaucoup.
Au revoir, bonne fin de journée.
Bonne journée. Au revoir. Au revoir.
Voilà, lui, c'est le détenu idéal, en fait.
Ah ben, c'est sûr que si on avait ce type de monsieur tout le temps, là, oui, ça, c'est pas comme ça avec tous. C'est quelqu'un de très... Enfin, qui a une capacité, en fait, de faire les choses.
Son dossier est assez grave, quoi. C'est-à-dire que c'est pas de la petite délinquance à laquelle il a participé.
Complètement.
Et... Il avait pris combien de temps en tout
Alors ça, je peux regarder. Voilà. 6 ans.
Ouais, 6 ans. Puis je vois association de malfaiteurs, vol en réunion, arrestation, extorsion de fonds par violence, etc., etc. La solution la plus évidente, ce que demande la société, me dirait n'importe quel politique, c'est qu'on l'enferme.
Oui, qu'on l'enferme et surtout qu'il fasse jusqu'au bout, à l'intérieur. Parce que aussi, pour certaines personnes, en fait, quand ils les font sortir, ils ont l'impression qu'ils ne font pas leur peine. Mais si, monsieur, il l'a fait. Il est en train de la faire en ce moment et il va continuer jusqu'à 2019. Mais de façon progressive, il a été enfermé. Il est sorti en placement sous surveillance électronique. Il avait passé week-end. Et ensuite, il va passer en libération conditionnelle. Et il va être suivi comme ça jusqu'en 2019. Et en effet, il me semble plus pertinent de le faire sortir de façon cadrée, surveillée, suivie, avec un emploi. Et de le suivre jusqu'en 2019, plutôt que de le faire sortir en 2019... Et c'est ça, en fait, qu'on a du mal à faire comprendre. C'est difficile à faire avancer l'idée, l'opinion publique, les mœurs. Pour tout le monde, quelqu'un qui est condamné par un tribunal et qui est puni, il va en prison. Voilà.
Ouais, point.
Non. Mais après, je pense que pour développer tout ce qui est peine alternative, les mentalités, elles bougent, elles bougeront. Je suis une grande convaincue du milieu ouvert. Je suis persuadée que c'est vers ça qu'on va. Mais ça demande beaucoup de temps. C'est un changement des mentalités. Voilà, ne plus se dire que quand une personne a commis une infraction, c'est la prison. Ça peut être plein d'autres choses, en fait. Il y a un moment, il faut aussi que la société civile soit concernée par ces délinquants. Et donc, intègre le fait qu'il faut aussi qu'elle participe à la punition. Mais ça veut dire le travail d'intérêt général, par exemple. Le travail d'intérêt général, c'est la société civile, les collectivités publiques, les communes, que les entreprises ne soient plus frileuses, que, voilà, que, qu'en fait... on ouvre les portes des prisons pour que la société civile ouvre les siennes, en fait, et qu'elle se sente concernée. Parce que les mettre en prison, oui, c'est quelque part, c'est facile pour tout le monde.
Ça les met à l'écart.
Ça met à l'écart, c'est ça, c'est l'idée.
En attendant,
voilà, le problème, c'est qu'on sait très bien que c'est des gens qui vont sortir. Donc, tant qu'à faire, peut-être on peut faire les choses autrement. Voilà.
C'est convaincant ce que nous dit cette conseillère d'insertion, Liv, mais les récentes annonces du gouvernement augurent plutôt d'une approche ultra-sécuritaire de la prise en charge des détenus.
Oui, car si le président a annoncé le développement de travaux d'intérêt général et de peines alternatives, trop peu de moyens sont alloués à de telles ambitions, surtout comparés au budget déployé avec pour plus de prisons, avec plus de gardiens, plus armés. Alors on va retourner au SPIP la semaine prochaine pour un atelier citoyenneté avec cette question. Et si la prison sans les barreaux était la solution ?
Et en même temps, les détenus et leurs familles s'organisent, Antoine.
Article 1. Entre les détenus, salariés actifs, privés d'emploi, retraités des prisons françaises qui adhèrent ou adhéreront au présent statut, il est constitué, conformément à la deuxième partie du Code du travail, un syndicat professionnel ayant pour titre « Syndicat pour la protection et le respect des prisonniers », le PRP. Peuvent s'y affilier tous les détenus et leurs familles, ainsi que tout citoyen, sans aucune distinction. Et ben voilà, un nouveau syndicat est né. On va aller voir ça de plus près.
Non, mais la prison, ça n'a jamais été la solution. Donc, que faire ?
Alors Lydia, là on est à Châteauroux, et vous avez monté un syndicat en tant que famille de détenus, hein, c'est ça ?
Oui,
Donc moi, je suis mère de détenue, la vice-présidente est femme de détenue et la secrétaire générale est femme de détenue, ex-détenue elle-même et fille de détenue.
Pourquoi vous avez eu besoin de monter un syndicat ?
Pour avoir un petit peu plus de poids, pour faire entendre la parole des détenus. Parce qu'au départ, on avait créé un collectif, qui est toujours actif d'ailleurs, le collectif Soutien aux détenus de France. Et on n'avait pas, on n'était pas entendu. Au final, ça ne changeait rien au problème. Voilà. Donc le syndicat a un peu plus de poids. Là, maintenant, on se sent entendu et les détenus se sentent entendus à l'intérieur. Bon, on a des projets que là, on a mis un petit peu de côté puisqu'on est dans l'urgence avec les blocages. Mais il faut savoir qu'un détenu, quand il travaille, il ne signe pas de contrat. Pour vous donner des chiffres, on a des fiches de paye récentes qui nous disent la personne a travaillé 133 heures et a touché 200 euros. Une fois qu'on lui enlève tout ce qu'on a lui enlevé sur sa fiche de paye, il ne lui reste pas grand-chose. Donc si sa famille derrière ne l'aide pas, ben, il ne vit pas à l'intérieur, il ne peut pas cantiner, son tabac, c'est la nourriture et tout ça. Donc on a pas mal de projets comme ça. Et aussi, surtout, l'amélioration des soins qui est inexistante.
Alors, il se trouve qu'en ce moment, il y a aussi la mobilisation, les blocages des surveillants pénitentiaires. Et du coup, se pose la question quand même des détenus, quoi, parce que l'un ne va pas sans l'autre.
Oui, c'est clair, l'un ne va pas sans l'autre. Alors nous, on adhère, entre guillemets, hein, je mets les guillemets, on adhère sur le fait que les surveillants pénitentiaires demandent plus d'effectifs. Sur ça, on est d'accord. Et même les détenus sont d'accord. Parce que justement, s'il y avait plus d'effectifs, il y aurait moins de stress des surveillants pénitentiaires et moins de stress au niveau des détenus et peut-être un peu plus de dialogue. Alors, on m'a répondu, ils ne sont pas là pour faire du social, mais s'il y avait un peu plus d'effectifs, c'est vrai qu'il y aurait sûrement moins de problèmes dans les prisons françaises. Ensuite, sur le fait qu'ils demandent à avoir des tasers, des choses comme ça, on n'adhère pas, parce que ça va engendrer encore plus de problèmes. On est arrivé.
Et donc, c'est une maison d'arrêt qui a été bloquée, là, depuis une dizaine de jours, justement. Comment ça se passe ici, Lydia ?
Ça fait plus de 10 jours, là, que c'est bloqué. Donc, la semaine dernière, ils n'ont pas eu accès à leur parloir. Mercredi, la police a débloqué un petit peu. Ben voilà, vous voyez, ils peuvent rentrer, là. On les laisse rentrer.
Donc aujourd'hui, il y a quand même un blocage, c'est-à-dire qu'il y a un feu devant la porte. Mais les familles peuvent rentrer aujourd'hui. Donc ça s'est débloqué aujourd'hui.
Là, les familles peuvent rentrer aujourd'hui, ça vient juste de se débloquer. Voilà.
Et vous, vous avez parloir aujourd'hui ou pas ?
Non, parce que moi, mon fils, il n'est pas ici.
D'accord.
Mais je suis ici en tant que présidente du syndicat. Et justement, les familles leur avaient promis d'être présentes aujourd'hui. Je serai présente aussi vendredi et ce week-end.
Devant la maison d'arrêt de Besançon, Olivier Girard, le représentant local de la CGT, ne savait pas vraiment sur quel pied danser.
Est-ce qu'on durcit le mouvement ? Est-ce qu'on arrête le mouvement ? J'ai envie de dire qu'on n'a rien gagné, donc il faut que le mouvement continue.
Hier, ce sont près de 60 établissements pénitentiaires qui étaient encore touchés par le conflit, deux fois moins que la veille. Les gardiens de prison adhérents à l'UNSA-UFAP avaient donc précédé de quelques heures l'annonce officielle d'un accord avec le gouvernement en arrêtant leurs actions qui empêchaient les détenus de pouvoir, par exemple, au moins prendre une douche, parfois de sortir de leur cellule et de voir leur famille, leurs amis au parloir. Ce qui signifie que la tension pourrait encore monter d'un cran malgré la menace à peine voilée de l'administration pénitentiaire de déclencher des sanctions. 875 cas d'infraction à la loi qui interdit le droit de grève auraient déjà été recensés ces derniers jours.
La crainte qui est toujours sous-jacente, évidemment, c'est les mutineries, c'est les montées en pression.
Ça peut être quelque chose d'extrêmement critique pour les personnes détenues, de savoir que leur famille a fait un certain nombre de kilomètres pour venir les voir et qu'elles ne vont pas rentrer.
Ces jours-ci, depuis 10 jours, il y a la mobilisation des surveillants pénitentiaires. Mais vous, ça fait plus longtemps que vous menez cette lutte.
Alors moi, je me suis engagée parce que avec mon fils, on a été victime justement du système carcéral et du système judiciaire. Moi, je me suis fait draguer par un membre du personnel. J'ai refusé ses avances et du coup, ça a engendré d'énormes problèmes. Je me suis fait embarquer par la police, on m'a menacé de me mettre en garde à vue. Mon fils...
On va se mettre un peu...
Oui, on va s'éloigner.
Ils sont en train de remettre des pneus dans le...
Ils alimentent.
Dans la barricade de troncs d'arbres et de pneus en feu, hein, devant le, donc, le CP, hein, le centre pénitentiaire de Châteauroux.
C'est ça. Ouais. Je rappelle quand même que c'est interdit à tout citoyen français de cramer des pneus. Donc les surveillants pénitentiaires se mettent hors la loi. Et là, en l'occurrence, c'est un policier qui jette les pneus au feu. Donc on ne comprend plus rien, là. Voilà.
Il y a encore des familles qui arrivent.
Oui, il y a encore des familles qui arrivent.
Il a été jugé, votre fils ?
Oui. Il a été condamné conduite sans permis et délit de fuite. Récidiviste. Donc il a été condamné à 4 ans. 4 ans, plus avec le problème qu'on a eu au CP de Châteauroux, il a été condamné à 1 an de plus. 1 an de plus contre la pénitentiaire, donc les 4 surveillants qui ont déposé plainte. Et là, ils lui ont fait sauter tous ses droits, RPS, tout ce à quoi il avait le droit.
Les RPS, c'est
Les remises de peine. Donc, on diminue tout ça sur la peine. Sauf que quand il est passé en procès donc, contre les 4 surveillants pénitentiaires, ils lui ont fait tomber son sursis, donc, ce qui a rajouté donc, 1 an. L'issue du procès, les surveillants pénitentiaires ont eu gain de cause, donc ils ont eu 800 euros par surveillant pénitentiaire, et mon fils a été condamné à 1 an de plus. Et la juge a estimé qu'il ferait une peine pleine, donc on lui a retiré tous ses RPS, d'où la peine de 8 ans.
La France ne peut pas être fière des conditions dans lesquelles un certain nombre de personnes sont détenues sur son territoire, du fait d'une surpopulation chronique, avec un taux d'occupation qui, en moyenne, s'élève à 139%.
Nous ne faites pas passer pour des pervers, nous sommes des gens professionnels, plus humanistes que vous l'imaginez, parce que nous travaillons sur de la matière humaine. S'il n'y a pas plus de suicides en prison, s'il y a de l'intérêt porté à la population pénale, c'est les personnes avant tout qui le font ce travail-là. C'est personne d'autre qui le fait. C'est nous avant tout. Mais bordel de merde, ceux à qui on tend la main pour les aider, pour les sortir de la merde, c'est ceux-là qui nous agressent. Et vous, vous leur dites bravo, continuez. Ben ça, c'est plus tolérable.
La tension monte d'un cran dans le conflit des prisons, je vous le disais, les surveillants...
Alors nous, au jour d'aujourd'hui, on est là et on a créé ce syndicat pour faire entendre la voix des détenus, voilà. Qui est plus besoin que les détenus fassent... alors nous, eux, ils appellent ça mutinerie, nous on appelle ça des prises de parole, pour qu'on en arrive à ce qu'ils aient plus, en plus des peines. Parce que quand ils créent une mutinerie pour faire une prise de parole, il faut savoir qu'à la base, c'est pour se faire entendre sur leurs conditions de détention. Et ils sont obligés d'en arriver là, puisque à côté de tout ça, on ne les entend pas. On n'entend pas leur voix, on n'écoute pas leur voix. Donc il y en a qui ont des bons avocats, qui arrivent à pouvoir traîner les pénitentiaires en justice. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment démunis et ils ne comprennent pas ce qui leur arrive forcément. Donc nous, le syndicat, sur la longue, c'est pour que tout ça cesse et qu'enfin les détenus puissent être écoutés à l'extérieur. Vas-y, tu peux rentrer. Vas-y. Alors, on ne se voile pas la face non plus. Il y a aussi des détenus récalcitrants et qui vont, eux, chercher le problème. Voilà, aux surveillants pénitentiaires. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'entendait que dans ce sens-là. Le détenu agresse le surveillant pénitentiaire. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut faire valoir, c'est que oui, il y a des détenus qui le font sans raison et qu'il y a des surveillants pénitentiaires qui sont victimes, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Oui, il y a des détenus qui se font agresser sans raison et c'est eux les victimes.
Est-ce que c'est efficace pour vous, la peine de prison, l'incarcération ? Est-ce que ça fait évoluer les gens qui sont condamnés ? Est-ce que c'est la bonne solution, quoi ?
Alors ça, là, c'est une question très très grave que vous me posez et qui nous tient à cœur parce que je vais vous dire non. Je vais vous dire non, la prison, c'est l'école, on va dire l'école des voyous. Des personnes qui rentrent pour une petite, enfin pour une petite, rien n'est petit, hein. Ils ont décidé de faire leur bêtise, donc rien n'est petit. Mais les personnes qui rentrent pour quelque chose, ils vont en ressortir avec encore plus d'idées en tête, parce qu'ils vont en rencontrer d'autres détenus qui ont fait des choses plus graves que eux. Et au final, non, pour répondre à votre question, ça crée plus de délinquance, la prison au final, à la sortie. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, on dénombre beaucoup de récidives.
Et vous craignez pour votre fils ? Comment vous pensez qu'il va sortir de cette détention, de tant d'années de prison ?
Moi, je vais vous dire, avec les échanges que je peux avoir avec lui, quand on va au parloir et qu'il me dit « Ouais, un tel, il m'a dit ça, ça me donne une idée pour ça quand je vais sortir », j'ai une boule au ventre, j'ai très peur. Et je pense que mon fils y fera partie des récidives. Et quand on me dit la réinsertion, quand ils sortent, il n'y a pas de réinsertion. La réinsertion, elle n'existe pas.
Ça y est, les portes s'ouvrent, je suis Farhan, je sors la tête haute, j'ai fait ma peine comme un bonhomme, t'inquiète, j'ai pas de bouc avec mes potes. Cette question que je me pose, qui m'attend derrière la porte, la daronne, mes ennemis, Ray ou deux, trois internautes. Ça y est, je suis dehors, je m'adapte à la société. Je surfe sur le net, torse nu, c'est l'été. Le soir, je suis libre, je prends l'air. Ouais, je me marche jusqu'à pas d'heure. Je pense aux frères, aux Hebs, toujours une place pour vous dans le cœur.
Je suis français, pendu comme sur un cintre. Depuis que je suis au placard, la justice m'a repassé. La juge m'a taillé un costard. Maintenant, l'amour est au parloir. Chez nous, il n'est pas dans le pré. Ici, tout le monde s'en fout de l'agriculture. Mais c'est vrai qu'on aime le blé. Pour nous, l'ennui, c'est un passe-temps. Pour d'autres, une malédiction. Viens voir, j'ai des litrons à revendre. Comme à l'époque de la prohibition. La prison, c'est leur solution, c'est le coup de grâce, l'exécution. S'il faut s'armer de patience, bientôt à court de munitions.
Mes frères vivent retour vers le futur. Après avoir purgé du pays, je passe les portes du pénitencier avec courage à battre le pays.
Le temps que j'attends, reconnais mes torts. J'ai payé pour mes fautes, ouvrez les portes du pénitencier. Oh maman, je ferai des efforts.
À dire. Bah, c'est intéressant de savoir comment ça se passe de chaque côté. Est-ce que moi, ma question, c'est est-ce que c'est lié ?
Vous avez eu la bonne personne, hein. Mais la bonne personne.
Ah bon ?
Ah, voilà.
Oui. Parce qu'elle a monté un syndicat, c'est ça ?
Bah, c'est surtout qu'elle est interdite site. Hein.
Hein.
Eh oui.
Mais la
oui,
question, c'est
dites-nous.
Est-ce que
oui.
C'est pas lié les conditions d'incarcération et vos conditions
Alors
de travail ?
Alors déjà, il faudrait avoir connaissance vraiment des conditions d'incarcération, parce que là-dessus, on peut en rigoler, hein. On marque toujours le point sur la vétusté, sur les conditions du détenu. Attention, les petits loups, ils ont rien. Les surveillants, c'est des méchants. Franchement, si les victimes voyaient ce qu'ils avaient à l'intérieur, je pense que là, ça ferait une grosse révolution. Vous voyez ce que je veux dire ?
C'est-à-dire que les détenus sont
ils sont
trop
très
bien...
très loin d'être malheureux de par rapport à ce qu'on peut dire. Mais ça, on fait en sorte justement qu'on n'en parle pas.
Mais on parle quand même de surpopulation, de conditions de détention qui sont difficiles. Il y a des rapports qui sont faits. C'est même ce que vous...
On est à Châteauroux, là.
Est-ce que vous appelez conditions de détention difficiles quand vous voyez qu'un détenu, il peut prendre sa douche, une quinzaine de douches par jour, parce que la douche est ouverte le matin jusqu'au soir, qu'ils ont accès au sport, ils ont accès au permis de conduire, ils ont accès à beaucoup de choses. Est-ce que dans les maisons de retraite, ils ont droit à ça ? Est-ce que vous trouvez ça normal, que vous payez des impôts pour entretenir des détenus qui ont fait des conneries.
Donc ils sont privilégiés, les détenus, quoi.
Ah oui,
Oui, on sait de quoi on parle, puisqu'on est à l'intérieur, on sait comment les choses se passent. C'est ça qu'il faut savoir, voilà. Donc quand même la PlayStation, l'ordinateur, le lecteur DVD, le petit écran plat, et on en passe.
Mais la privation de liberté, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'ils soient dans des conditions inhumaines.
Ils ne sont pas dans des conditions inhumaines.
En France, on est très loin d'être dans des conditions inhumaines.
Est-ce que vous posez la question sur les parents de victimes ou les victimes elles-mêmes ? Alors ouais, c'est des pauvres, ouais. Mais dans 15 ans, il va sortir, il va vivre une vie normale. Il est entretenu par l'État.
S'il arrive à se réinsérer, si quand même il y a eu un processus, parce que s'il a été délinquant, il n'y a pas de raison. Non, vous pensez que... Mais c'est important la réinsertion, non, sinon qu'est-ce qu'on fait, quoi ?
Vous y croyez
franchement ? J'espère que c'est possible.
Pourquoi il y a autant de récidives ?
C'est ça la question.
Voilà.
Non, mais là, le conflit, c'est pas entre les surveillants et les détenus, c'est entre les surveillants et le ministère.
Il y a aussi une certaine catégorie de détenus vers lesquels...
Elle est aussi d'alerter la population française des conditions de travail que l'on a. Ouais. On travaille les week-ends, on travaille les nuits. Hein, les jours fériés, vous en avez pas, ou très peu. On vous impose les vacances quand vous avez des vacances scolaires. Donc à un moment donné, la vie de famille en pâtit. Il faut savoir que dans l'administration pénitentiaire, vous avez quand même 22% de suicides. C'est le taux proportionnel le plus important. Mais ça, aucun média n'en parle. Aucun. Notre représentant syndical.
Est-ce que, alors la question qu'on se posait, après on parlera du conflit ou on des négociations, hein. Est-ce que c'était une solution de plus utiliser les peines de substitution, les peines alternatives à l'incarcération?
Est-ce que vous avez demandé à l'avis des victimes? Ce serait intéressant de savoir aussi leur opinion sur ce coup-là. Vous croyez qu'un détenu, une personne extérieure, quand il agresse quelque chose, ou même qu'il va voler chez une grand-mère, on leur a demandé son avis à elle, si elle acceptait de le laisser dehors, juste avec un bracelet ou n'importe quoi? Voilà. Donc, vous comme moi, on est citoyens, on connaît déjà la réponse, on ne laisserait pas une personne comme ça à l'extérieur.
Mais est-ce que la solution, c'est la punition et pas justement essayer de réinsérer les gens dans...
Comment voulez-vous réinsérer des personnes qui, au départ, sont mal parties dans leur vie? Travailler dans l'établissement parisien, c'était ça. Des gamins, des mineurs, 14 ans. Et après, il fallait rentrer en prison pour être le caïd de la bande. Et ainsi de suite. Et ça monte crescendo. Voilà. C'est ça.
Comment donc, on peut parler de réinsertion s'il n'y a pas d'insertion déjà dès le départ?
Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Alors, on décide qu'ils iront définitivement
en prison. Je ne veux pas être le papa de tout le monde. Hein. Je ne suis pas le Père Noël. Moi, je ne peux rien faire. Hein.
Alors, un point sur les négociations. Vous êtes FO, hein, c'est ça? FO oui. Pénitentiaire.
Oui. Mon organisation syndicale a décidé de ne pas voter parce que le compte n'y est pas. Ça fait plusieurs années que le système ne nous écoute pas. Donc aujourd'hui, je dis stop. On en a marre. Aujourd'hui, on est là. On ira jusqu'au bout.
Le blocage oui. Continue ici, quoi.
Oui, tout à fait.
Et aujourd'hui, vous avez laissé passer les familles, quoi. Il n'y a pas de blocage des familles, des parloirs.
Non, on a décidé. Donc c'est pas parce que la personne que vous avez interviewée juste avant vient avec vous et que non, on avait décidé ce matin qu'on ferait passer les parloirs. Voilà.
Ils rentraient tous les jours ou
oui,
pas?
Oui, bien sûr. Lundi, ils sont rentrés.
Non, on les a bloqués.
Non, lundi, on les a bloqués. Mercredi, il a fallu les forces.
Un peu, ouais.
Il a fallu les forces de l'ordre pour pouvoir nous pousser, puis qu'ils puissent voir un petit peu leur dieu à l'intérieur. Et aujourd'hui,
dieu.
Oui, leur dieu, ils appellent ça comme ça. Hein. Faut pas croire. Hein. Leurs enfants, leur mari, leur grand-mère.
Leur famille, quoi. Ouais.
Oui, leurs dieux. C'est bien ce que
ah,
je dis.
Leurs dieux.
Oui.
J'avais compris leur dieu.
Je non, leur dieu, dieu.
Ah,
avec
leur
un dé.
Dieu. Ouais. Ah, oui, avec un dé.
Donc tout à fait. Et aujourd'hui, ils sont rentrés tranquillement. Voilà. À aucun moment, on a mis quelque chose. On a même fait un passage. Et qu'on est tellement gentils, on leur a fait un passage pour qu'ils passent. Voilà.
Vous pouvez rentrer. Oui, oui, allez-y. Ah, puis le grand monsieur avec les lunettes là-bas que vous avez interrogé, alors lui, c'est le président FO. Et il ne nous aime pas du tout. C'est... Lundi, l'altercation a été avec lui... Enfin, ses propos étaient mouvementés. Hein.
Pour les parloirs, ouais, des familles qui viennent rendre visite aux petits privilégiés qui sont dedans. Parce que là, les surveillants disaient qu'ils ont tous des écrans plats, qu'ils sont privilégiés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Moi, ce qui me fait rire, c'est quand on me dit écran plat. On est en 2018. Ils vendent plus de télé à l'ancienne, toute ronde. À l'époque, c'était ça qu'il y avait dans les prisons. S'ils en vendaient encore, s'ils en fabriquaient encore. Mais ils n'auraient pas d'écran plat, c'est ce qu'on leur mettrait dans leur cellule. Donc écran plat, ils ne sont pas privilégiés, c'est juste qu'on est en 2018, ça a évolué. Et du coup, bah maintenant, c'est des écrans plats. Mais l'écran plat, frigo, tout ce qu'ils veulent, tout ce que le détenu a à l'intérieur de sa cellule, il l'a payé. Et au prix fort. Pour la plupart, avec les mandats que leur famille envoyait. Donc ils ne sont pas privilégiés, non.
Récépissé du dépôt en mairie, des statuts du syndicat PRP pour la protection et le respect des prisonniers. Châteauroux, le 9 janvier 2018. C'est l'acte de création voilà, de votre, enfin, du syndicat des détenus et des familles de détenus, c'est ça?
Voilà.
Alors ça va peut-être mieux se passer maintenant avec vos camarades syndicalistes là, qui bloquent l'accès à la prison.
Je pense qu'à un certain moment, peut-être qu'on va alors, nous demander des rencontres, des pourparlers entre nous... Je pense qu'on va peut-être y arriver. Mais pour l'instant, nous, notre but premier, c'est de pouvoir être reçus en tant que syndicat au ministère de la Justice.
Bon, bah, c'est pas encore gagné pour la convergence syndicale dans le secteur, mais c'est un bon début. Alors, une aventure syndicale à suivre, notamment dans L'Envolée, le journal, et l'émission de radio du même nom sur FPP, Fréquence Paris Pluriel.
C'était comme un bruit qui court. Laissez-nous des messages, abonnez-vous au podcast et faites courir le bruit sur les réseaux sociaux que le bruit court, hashtag comme un bruit. Toutes les informations sont sur le site de France Inter. Juste après les infos, vous retrouvez Daniel Morin et nous, on se retrouve samedi prochain à 16h.